Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, l'arrestation de Julian Assange à Londres, lanceur d'alerte, porte-parole de Wikileaks qui avait publié des milliers de documents sur l'attitude des États-Unis en Irak et en Afghanistan, héros de la liberté d'informer, personnage qui a ses zones d'ombre aussi, parfois soupçonné de rouler pour la Russie. Les dernières informations à Londres avec Antoine Gignot. Nous serons en ligne avec son avocat en France, Juan Branco, et puis nous l'entendrons, Assange lui-même, au micro de France Inter il y a 3 ans. Il parlait d'une demande d'asile avortée en France. Au Soudan, l'un des plus anciens régimes d'Afrique est-il en train de vivre ses dernières heures? Après 6 jours de manifestations, l'armée promet une annonce importante. Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989, serait-il déjà tombé? Témoignage sur place et les dernières informations avec Claude Guibal. C'est une première en France, une greffe d'utérus, hôpital Foch, Suresnes, équipe du professeur Ayoubi, la donneuse vivante et la maman de la patiente qui retrouve ainsi l'espoir d'avoir un enfant. Dans ce journal encore, un pas vers la légalisation de l'avortement en Corée du Sud, décision historique. Les jeunes Français progressent en anglais, mais ils restent assez moyens à l'oral. Qui fait mieux en Europe? Ce sera la chronique de Delphine Simon. À Paris, le vote à 16 ans, testé lors des élections européennes. La météo, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Météo France, que dit Météo France aujourd'hui?
Eh bien, soleil et ciel presque tout bleu sur la moitié nord de l'Alsace et la Bourgogne, au centre-Val de Loire et à la Vendée jusqu'aux côtes de la Manche. Ailleurs, l'après-midi restera nuageux, des éclaircies assez nettes se développeront près du delta du Rhône et entre la Charente-Maritime, l'Auvergne et la Franche-Comté. Et puis dans le sud-ouest, à l'est du Rhône et en Corse, les averses seront régulières et parfois orageuses. Côté température, prévoyez 10 à 19 degrés du nord-ouest au sud-est.
Et vous qui avez l'habitude de regarder au ciel, levez le nez à Paris ce matin, Sébastien, des statues retirées du toit de Notre-Dame. Opération impressionnante, Rémi Brancato a joué les montants en l'air, il nous racontera. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. C'est un personnage important, mystérieux des relations internationales ces dernières années. L'un des lanceurs d'alerte les plus célèbres, l'homme aux cheveux gris, Julian Assange, porte-parole de Wikileaks, qui avait publié des milliers de documents sur l'attitude des États-Unis en Afghanistan, en Irak. Publié aussi des mails qui ont déstabilisé le camp démocrate aux États-Unis lors de la présidentielle 2016. Julian Assange a été arrêté ce matin à Londres. Cela faisait 7 ans qu'il vivait à l'ambassade d'Équateur à Londres. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter au Royaume-Uni, que sait-on de cette arrestation, Antoine?
On sait qu'elle a eu lieu ce matin aux alentours de 10h, une arrestation qui a eu lieu à l'intérieur des locaux. Plusieurs vidéos montrent Julian Assange vieilli, un peu bouffi, avec une longue barbe blanche, les cheveux gris ont blanchi eux aussi. Il sort de l'ambassade d'Équateur, les mains liées, escorté par une dizaine de policiers. Le fondateur de Wikileaks, vous l'avez dit, a passé au total 7 ans à l'intérieur du bâtiment, mais c'est terminé. Le président de l'Équateur, Lénine Moreno, le dit dans une courte vidéo, la patience a des limites et il pointe le comportement de Julian Assange, accusé d'avoir installé à l'intérieur des locaux du matériel électronique non autorisé et d'avoir notamment piraté les dossiers de sécurité de l'ambassade. C'est ce qui a conduit, explique le président équatorien, à lever la protection, l'asile qui avait été accordé aux lanceurs d'alerte. Pas question pour autant de l'extrader vers un pays où il risque la torture ou la mort, l'Équateur comme le Royaume-Uni s'y engage. Alors pour l'instant, le lanceur d'alerte est en garde à vue dans les locaux de la police au centre de Londres. Il doit être présenté rapidement au tribunal. Ce que la justice lui reproche techniquement, c'est de ne pas s'être rendu à une précédente convocation en 2012, alors qu'il était accusé d'agression sexuelle en Suède. L'affaire a depuis été classée, mais l'une des plaignantes réclame la réouverture du dossier.
Merci Antoine Gignot, en direct de Londres pour France Inter. Et bonjour Juan Branco.
Bonjour.
Essayiste et avocat de Julian Assange en France. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous donner sur les circonstances de l'arrestation, Juan Branco?
Oui, bien entendu. Cela fait un an que la pression monte sur Julian Assange du fait d'un rapprochement de Lénine Moreno avec les États-Unis. Cela avait commencé par une visite du vice-président américain en Équateur, la signature d'accords militaires, et dans lesquels, en fait, la monnaie d'échange, très clairement, avait été la mise au ban et la reddition de Julian Assange.
Pour expliquer les circonstances, il y avait autrefois un président de gauche en Équateur, et puis le pouvoir est désormais un pouvoir de droite qui s'est rapproché de Trump. C'est comme ça que vous interprétez l'arrestation?
C'est factuellement ce qui s'est passé, et je rappelle que Julian Assange a été mis à l'isolement complet, alors qu'il était dans des conditions qui avaient déjà été considérées par l'ONU comme équivalent à une détention arbitraire, pendant 7 mois à l'isolement dans 20 mètres carrés, du fait de la décision de ce président. Donc en violation complète des conventions internationales, il s'agit maintenant de rendre service à la puissance américaine avec comme intermédiaire le Royaume-Uni.
Donc ce que vous redoutez, c'est l'extradition?
C'est évidemment le risque auquel on est confronté et contre lequel on va lutter de façon très forte, mais c'est la seule raison de cette manœuvre d'évidence. Ni le Royaume-Uni ni l'Équateur n'ont d'intérêt en soi à mettre en difficulté Julian Assange. C'est bien parce qu'il y a une puissance aujourd'hui qui est la puissance américaine qui, depuis le début de cette opération, parce que je le répète, l'ONU a qualifié sa détention d'arbitraire en pointant du doigt très explicitement la main des États-Unis derrière cette affaire. Et il est peut-être temps maintenant aux puissances européennes et notamment à la France de faire valoir leur indépendance et d'intervenir dans ce dossier.
Juan Branco, vous avez eu des contacts directs ou indirects ces derniers temps avec Julian Assange ?
Oui, bien sûr. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour à Noël, pour l'accompagner. Et depuis, nous avons échangé régulièrement. Il était serein, mais évidemment en tension par les dernières opérations de communication qui visaient à faire accepter cette opération qui se préparait en fait depuis quelques semaines. Et nous avons tout tenté au niveau légal et judiciaire comme on l'a fait depuis des années. Évidemment, ce n'est pas suffisant car quand il y a une volonté politique, le droit parfois ne suffit pas.
À propos de l'extradition, Juan Branco, quand l'Équateur dit on n'extradera pas vers un pays qui applique la peine de mort, sous-entendu aussi les États-Unis, est-ce que ça vous rassure ? Est-ce que vous y croyez ?
Mais non, l'Équateur n'a plus aucun rôle dans cette affaire dès le moment qu'ils ont décidé de trahir Julian Assange, qui est pourtant de nationalité équatorienne, qui n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation-là. Et maintenant, évidemment, ils nous laissent confronter au Royaume-Uni, dont on sait le degré d'indépendance par rapport aux États-Unis, avec d'évidence une seule intention, mettre sous les barreaux à vie M. Assange, qui avait été quand même désigné comme la cible numéro un de la CIA par son directeur d'alors, Mike Pompeo. Je dois le rappeler, les éléments sont aujourd'hui trop explicite pour que l'on puisse continuer à penser que ces éléments de langage, que ces appareils de pouvoir ne cessent de faire circuler, ont une quelconque valeur aujourd'hui.
Restez avec nous, je voudrais vous faire écouter, Juan Branco, l'extrait d'une interview de Julian Assange sur France Inter. C'était en février 2016 au micro de Patrick Cohen et il était question d'un éventuel asile en France. Écoutez ce qu'en disait Julian Assange.
François Hollande a eu l'air d'être très faible. Il a été la victime de l'espionnage américain. Et François Hollande devait absolument récupérer cette position de puissance et de montrer au peuple français que ces activités-là ne seraient plus tolérées en France. Et il a voulu prendre une action symbolique pour montrer sa force et sa puissance. Donc mes avocats français étaient en contact avec François Hollande. Et ils se sont dit que peut-être que on pourrait avoir un geste symbolique très fort qui m'accorderait l'asile en France, mais ça n'a pas été fait. La fourniture additionnelle de renseignements par les États-Unis apparemment a été considérée comme plus importante que mon droit d'asile.
Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la France, Juan Branco, vous qui êtes l'avocat de Julian Assange ?
La même chose que j'avais demandé à François Hollande à cette époque, après la révélation par Wikileaks que les communications personnelles et professionnelles des présidents de la République et de leurs principaux conseillers étaient espionnés de façon systématique par les États-Unis, ainsi que les principales entreprises françaises qui candidataient à des marchés à l'étranger. Ne serait-ce que pour cet élément, la France doit à Julian Assange, qui a par ailleurs un enfant en France qu'il n'a pas vu depuis sa naissance par peur pour son intégrité physique.
Et qui vit toujours en France, l'enfant en question.
Une protection.
Il a toujours des liens personnels en France.
L'un de ses enfants est français et est en France depuis sa naissance. Et encore une fois, il n'a pas pu le voir de peur que si il se rendait dans l'ambassade, l'intégrité de son enfant serait mise en danger et utilisée comme moyen de pression contre lui. Julian Assange a des liens profonds avec la France, a rendu des services extraordinaires à la France dont je pense très peu de personnes pourraient aujourd'hui se faire valoir. Il n'y a aucune raison que la France, ne serait-ce que dans ses intérêts, mais aussi tout simplement pour les idées qu'elle prétend défendre, n'interviennent pas pour défendre l'intégrité physique de cette personne qui, je vous le rappelle, risque la prison à vie et dans des conditions de torture aux États-Unis pour n'avoir fait qu'une chose, révéler des documents dont tous aujourd'hui acceptent qu'ils étaient véritables et qu'ils exposaient des crimes massifs commis par les États-Unis.
Alors, vous le savez, au fil des années, néanmoins, Julian Assange, il est passé du statut de héros de la liberté d'informer à celui de personnage un peu plus trouble au fil des années. On s'est demandé s'il n'y avait pas des liens avec la Russie, notamment après la campagne 2016 où le camp démocrate aux États-Unis a été déstabilisé par ces révélations. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Vous imaginez bien que quand vous vous confrontez à des pouvoirs si importants et que vous êtes ciblé par la CIA et par l'ensemble de l'appareil de sécurité des États-Unis de façon explicite, ce sont leurs propres mots, il y a évidemment des campagnes de désinformation massives qui sont lancées pour vous délégitimer. Il y a eu des accusations de viol qui ont amené à un classement sans suite, alors même que l'enquête n'avait pas été ouverte.
Et l'une des deux jeunes filles suédoises demande la réouverture.
Il y a eu des accusations de complotisme avec le FSB sans aucun élément. L'enquête Mueller l'a montré. Barack Obama lui-même, dans sa dernière déclaration en sortant de la Maison Blanche, avait dit que la responsabilité n'est pas de WikiLeaks, mais de la part des médias américains.
Donc vous dites c'est pas vrai. Aucun lien avec la Russie.
Qui ont participé à une hystérisation du débat public au lieu de traiter avec froideur les révélations de WikiLeaks. Et ainsi de suite. Il y a évidemment
Parce que Moscou est la seule capitale à réagir ce matin. Juan Branco, Moscou est la seule capitale à réagir.
Il n'y a aucun élément tangible qui permette aujourd'hui, de votre côté, de les. Soit vous avez des éléments tangibles, soit vous n'en parlez pas. C'est une éthique minimale. Et quand vous voyez que cette personne-là, depuis 7 ans, a vu sa réputation atteinte de façon successive sur autant d'affaires qui n'ont jamais débouché sur quoi que ce soit, il faudrait peut-être que vous interrogiez sur le rôle que vous jouez de filtre par rapport aux campagnes qui sont lancées par les pouvoirs qui sont en effet dérangés bon, par quelqu'un qui a révélé des éléments majeurs de corruption, de violence, de crimes, etc.
Et vous m'accorderez que vous avez eu largement le temps de le dire ce matin au micro de France Inter.
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Juan Branco, d'avoir répondu à nos questions. Et évidemment, on reviendra sur cette arrestation importante dans nos prochains rendez-vous d'information. Un autre lanceur d'alerte célèbre, Edward Snowden, dénonce un jour sombre pour la liberté de la presse. L'actualité, c'est aussi cette question. Après l'Algérie, le pouvoir vacille-t-il dans un autre très vaste pays d'Afrique, le Soudan? Cela fait plus de 30 ans qu'Omar El-Béchir est au pouvoir. Est-il en train de vivre ses dernières heures à la tête du pays? 6 jours de manifestations depuis la semaine dernière, vous entendez des échos de ces manifs de ces derniers jours sous ma voix dans ce pays très fermé. L'étincelle remonte à décembre, le prix du pain qui a triplé. Ces dernières heures en particulier, l'armée s'est impliquée dans la crise. Omar El-Béchir a-t-il déjà été destitué? La question se pose. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Les dernières informations avec vous dans un instant. D'abord témoignage, Rim Abbas qui est journaliste soudanaise sur place.
Nous savons que Béchir est fini, qu'il n'est plus désormais le président du Soudan. Ce que nous ne savons pas, c'est à quoi ressemble le gouvernement à l'heure qu'il est. En ce moment, ils sont en train d'arrêter des figures du régime, mais il faut continuer à se battre. C'est un très long combat qui s'annonce pour nous. Et même s'il y a beaucoup d'incertitudes, les gens sont heureux. Ils chantent, ils font la fête, ils descendent avec leur bébé dans la rue. Ils distribuent des bonbons, ils crient, ils pleurent. Vous savez, c'est un moment historique.
Alors Claude Guibal, quelles dernières informations? L'armée promet une annonce importante.
Oui, l'armée qui est au centre du jeu, l'armée qui a ces derniers jours pris en fait ses distances avec Omar El-Béchir. L'armée à qui la foule a donc demandé de prendre en main la transition politique. Alors beaucoup de militaires, hein, il faut le comprendre, se reconnaissent dans cette classe moyenne qui est descendue dans les rues depuis 3 mois pour protester contre les 70% d'inflation, contre le triplement du prix du pain. Or, cette crise économique, elle est quand même directement liée à la mauvaise gestion par l'État de la baisse des revenus liés à la perte des 2/3 des réserves pétrolières depuis l'indépendance du Soudan du Sud. Ça a eu évidemment un impact sur les secteurs économiques contrôlés par l'armée. Une armée dont Omar El-Béchir a limité le pouvoir aussi ces dernières années en favorisant la montée en puissance des services de renseignement. L'armée semble donc vouloir, comme en Égypte, sacrifier aujourd'hui Omar El-Béchir pour tirer son épingle du jeu. Mais on le voit, hein, Bruno, avec cette annonce qui traîne, il y a de lourdes divisions. Il y a eu ce matin des rumeurs d'arrestation de proches d'Omar El-Béchir. Il y a eu ces annonces des services de renseignement, de libération de l'ensemble des prisonniers politiques au Soudan. Et donc, on le voit, rien n'est très clair. Et à ce stade, rien n'est encore peut-être joué pour la suite.
Merci Claude Guibal. Et là aussi, on continue de suivre d'autres informations à 18 et 19h et des dépêches qui tombent quasiment toutes les minutes. Un raid de manifestants dans un bâtiment des forces de sécurité dans l'Est. Selon des témoins, c'est ce que nous dit l'agence France Presse. Situation très mouvante au Soudan. Il y a des semaines où l'actualité scientifique donne le tournis. Hier, nous avons donc vu la première photo d'un trou noir. Ne manquez pas la tête au carré dans une heure à ce sujet. Nous nous sommes découverts hier encore un nouveau cousin, une nouvelle espèce humaine qui a vécu il y a plus de 60 000 ans aux Philippines. Ce soir, Israël veut envoyer un nouveau module sur la Lune. Et puis à la rubrique médicale, la première greffe d'utérus en France. Pour qui? Eh bien pour des femmes qui sont nées sans utérus ou bien il leur a été retiré pour des raisons médicales. médicale et elles veulent un enfant. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
Pour la première fois en France, Daniel, une femme vient donc de bénéficier de cette opération.
La patiente greffée a 34 ans, elle est née sans utérus et c'est le cas d'une naissance féminine sur 4000. Le problème peut aussi venir d'une hémorragie qui a entraîné la perte d'utérus. La donneuse, c'est sa mère, une femme de 57 ans et elles vont bien toutes les deux. C'est souvent une femme de la famille qui donne, mère ou sœur, pour des questions de compatibilité et ça évite aussi une éventuelle démarche financière. Depuis la première en Suède, c'était en 2014, une quinzaine de bébés ont vu le jour dans le monde. Le professeur Jean-Marc Ayoubi de l'hôpital Foch à Suresnes travaillait sur ce projet en lien étroit avec l'équipe suédoise.
Et Daniel, le professeur Ayoubi, vous l'avez rencontré il y a un mois, il expliquait comment la chirurgie robotique facilite la première partie, celle du prélèvement de l'utérus chez la donneuse.
Nous avons calqué notre projet de recherche sur le projet suédois car nous travaillons avec cette équipe depuis 10 ans. On participait pratiquement à toutes les greffes et nous avons participé à faire avancer la technique chirurgicale pour le prélèvement de l'utérus chez la donneuse. Par exemple, le prélèvement de l'utérus était fait par une chirurgie classique, ouverture du ventre, et nous avons apporté notre expertise en termes de chirurgie robotique et l'équipe suédoise avec laquelle on travaille a intégré le prélèvement de l'utérus par chirurgie robotique pour la greffe utérine.
Daniel, le but de la greffe, c'était pas tant d'avoir un utérus ?
Non, la femme peut vivre sans. C'est bien sûr de donner naissance à un enfant. Pour la patiente française, le transfert d'embryon préalablement congelé devrait se faire dans les 10 mois. Lorsque la femme aura pu mener une ou deux grossesses à terme, l'utérus lui sera enlevé pour ne pas lui faire supporter un traitement anti-rejet qui peut avoir des effets secondaires. Une deuxième équipe française au CHU de Limoges travaille sur la greffe d'utérus, mais là, à partir de donneuses décédées.
Merci Daniel Messager. Les retraités à nouveau appelés à descendre dans la rue, 7e fois depuis le début du quinquennat Macron. Le cortège marseillais était assez fourni ce matin, Olivier Martoc.
Le cortège lent et tranquille a quitté le Vieux-Port en direction des bureaux de l'Union Européenne à 500 mètres à vol d'oiseau. Car pour les syndicats, c'est bien l'Europe qui inspire la politique actuelle du gouvernement en matière de retraite. Roland Audibert, retraité CGT de la pétrochimie.
Macron, bon, avec son grand zèle, suit les directives européennes. On se retrouve devant une situation de désindexation des retraites. On est en train de vivre une programmation de baisse de pouvoir d'achat. Vu les 0,3 qu'on va nous donner royalement, sauf qu'à côté, on nous en enlève encore. Alors, soi-disant, pour les pensions en dessous de 1200 euros, parce qu'ils pensent que 1200 c'est royal, on va faire un petit geste, sauf qu'ils n'ont pas dit comment et quand. Et
effectivement, pour la majorité des retraités qui défilent, cette question du pouvoir d'achat est centrale.
J'ai travaillé 40 ans comme infirmière, oui. J'ai une retraite qui n'est pas trop mal, je ne suis pas la plus à plaindre. Mais c'est vrai que mon pouvoir d'achat, ça fait 10 ans que je suis à la retraite, mon pouvoir d'achat, il baisse d'année en année, quoi, et je m'en rends très bien compte. Hein.
Jusqu'à présent, les retraités restaient cantonnés sur le Vieux-Port, car ils étaient peu nombreux lors des journées de manifestation. Le défilé marseillais ce matin rassemblait plus de 1500 personnes, 4 fois plus que pour les rendez-vous précédents. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Petite ouverture de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn ce matin. La réindexation des petites retraites sur l'inflation, la hausse des prix est sur la table, dit la ministre. À l'approche de la campagne des municipales, Anne Hidalgo, qui n'est pas encore officiellement candidate à sa succession, lance un ballon d'essai dans une interview au journal Le Monde. Je suis favorable au vote des 16 ans. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Anne Hidalgo propose de tester cela à l'occasion des élections européennes testées dans une douzaine de lycées parisiens.
Oui, une proposition d'expérimentation menée à la base par l'Institut de Sciences politique de Saint-Germain-en-Laye. L'idée, c'est de sensibiliser quelques milliers de lycéens entre 16 et 18 ans à cette élection européenne, les éclairer sur les enjeux, puis les faire voter dans leur lycée le dimanche 26 mai. Céline Braconnier, la directrice de Sciences Po.
L'idée, c'est de tester les effets qu'aurait une autre offre de participation pour les jeunes qui se déroulerait dans un lieu qui leur est familier, dans lequel ils apprennent à la fois à développer leur sens critique, à traiter des informations et dans lequel ils sont accompagnés, ils seraient accompagnés pour cette première expérience électorale.
Faire voter les jeunes dès 16 ans, un investissement pour l'avenir, explique Céline Braconnier.
On sait, parce que ça a été testé dans d'autres pays, que la participation électorale, ça s'acquiert aussi par l'habitude. Et que si on arrive à faire participer les jeunes plusieurs fois d'affilée au début de leur trajectoire citoyenne, eh bien on a plus de chances qu'ils continuent de participer ensuite.
Sensibiliser les jeunes, c'est aussi espérer qu'ils soient moteurs dans leur famille. Un cercle vertueux, analyse Céline Braconnier. Sciences Po et la mairie de Paris qui doivent maintenant obtenir l'aval du ministère de l'Éducation pour mener à bien cette expérimentation.
Des lycées au collège et aux écoles. les élèves français ne sont pas si mauvais que cela en langues étrangères, mais c'est pas encore l'idéal. Nouvelle étude du CNESCO, Conseil national d'évaluation du système scolaire. Les élèves progressent en langue au primaire comme au collège. Ils sont pas mauvais à l'écrit, mais le bas blesse encore à l'oral. Bref, il y a des progrès à faire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir si on fait mieux ailleurs et comment. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
La chronique européenne chaque jeudi avec vous. Alors, est-ce qu'on fait mieux ailleurs?
Disons que la comparaison n'est pas vraiment à notre avantage.
Bon,
à l'oral.
Ça c'est dit.
Oui, à peine un quart des élèves français atteignent le niveau de compréhension attendu et c'est 20 points de moins que la moyenne européenne.
Ah oui, quand même.
À l'écrit, on fait à peine mieux. En fait, les bons élèves en langue, ce sont les Suédois, les Néerlandais et les Hongrois, selon une enquête de 2011 de la Commission européenne. Se débrouiller en anglais dans la vie courante en Suède et à Malte, 82% en sont capables, à peine 14% en France. Aïe, ça fait mal. Les Anglais sont encore moins bons. À peine 9% sont capables de se débrouiller à peu près correctement dans une autre langue que la leur.
Pourquoi tous ces gens-là réussissent-ils mieux que nous?
Eh bien, la différence se fait d'abord à l'école. Dans les pays scandinaves et les pays de l'Est, l'apprentissage commence dès le primaire, à un moment où l'oreille peut encore apprendre des sons nouveaux. Et ça ne date pas d'hier. Ce choix remonte aux années 60. En France, cet apprentissage précoce date de 2002. 40 ans de retard. Deuxièmement, la formation des professeurs d'école primaire est un problème chez nous. La plupart n'ont pas fait d'études de langue, ce sont des généralistes. Mais surtout, ils sont globalement moins formés qu'ailleurs. 80% des profs d'école n'ont pas eu de formation spécifique en langue depuis 5 ans. Enfin, certains pays développent l'apprentissage massif des disciplines en langue étrangère. Ça favorise la pratique. En Italie, 100% des établissements scolaires proposent désormais une matière comme la physique, les maths ou la géographie en anglais. En France, à peine 10%.
Alors l'école, donc est-ce qu'il y a, d'autres raisons?
Eh bien les langues, ça se pratique, oui monsieur, on apprend autant sur les bancs de l'école qu'en dehors, autrement dit en regardant la télé, dans la vie de tous les jours, en allant acheter son pain ou sur les réseaux sociaux. En Suède, comme aux Pays-Bas, les programmes étrangers à la télé ne sont pas traduits, ils sont en général en anglais sous-titré, les enfants du coup baignent dans l'anglais, ce qui n'est pas le cas en France où la VF domine.
Et c'est donc une question sociétale et politique.
Oui, la moitié des pays européens imposent obligatoirement l'anglais à l'école en France. Ce n'est pas le cas. Langue et identité sont intimement liées. La défense de la langue française, de son statut international, explique en partie ce refus du multilinguisme chez nous, selon les chercheurs du CNESCO. Ceci dit, aujourd'hui, on rattrape notre retard. La France est le pays d'Europe qui propose le plus d'heures de cours de langue à ses élèves. Et il ne vous a pas échappé, Bruno, que beaucoup d'enfants et d'ados regardent désormais sur les réseaux sociaux des vidéos, sur YouTube notamment. Ces vidéos, le plus souvent, elles ne sont accessibles qu'en version originale.
Et c'est l'occasion de dire que France Inter est partenaire de la dernière saison de Game of Thrones. Merci Delphine Simon. En Corée du Sud, une évolution majeure. C'était l'une des dernières économies dites développées où l'avortement était quasiment interdit, limité aux cas de viol, d'inceste ou de risque pour la santé de la mère. Eh bien, la plus haute juridiction de Corée appelle à changer la loi au nom de la liberté et de la santé des femmes. Frédéric Ojardias.
Réunis devant la cour constitutionnelle, les militants pro et anti-avortement se font face et crient leur slogan. Quand les juges, par 7 voix contre 2, annoncent que l'interdiction de l'IVG est contraire à la Constitution, les associations féministes explosent de joie. Réaction de Jie et de Park Arum, deux militantes.
I'm very happy that I...
Je suis vraiment heureuse d'avoir enfin le droit de décider de ce que je fais de mon corps. Beaucoup pensaient que la Corée est si conservatrice que cette interdiction de l'avortement durerait toujours. Mais les Coréennes ont changé et notre pays a changé. Nous assistons à la montée en puissance d'une révolte féministe.
La décision d'aujourd'hui, c'est le résultat d'années de lutte militante. La Cour s'est aussi prononcée sur les questions d'égalité dans la société et des droits des femmes en général. C'est pourquoi cette décision est si significative.
Les avortements clandestins sont en fait courants en Corée. Mais comme ils sont illégaux, les femmes peuvent être dénoncées, victimes de chantage, et elles ne sont pas protégées en cas d'erreur médicale. 75% des Coréennes exigeaient donc que la loi change. Elles ont été entendues. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Un tout petit mot de sport, les quarts de finale de la Ligue Europa ce soir. Match vedette Arsenal-Naples, ce sera 21h. À suivre également Slavia Prague contre Chelsea, Benfica face à Francfort et Villarreal face à Valence. Nous allons à Paris, au pied de la cathédrale Notre-Dame à présent. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Vous y êtes et on vous entend grâce à Cyprien Créton de Limerville. Chantier exceptionnel aujourd'hui à Notre-Dame. On rénove la flèche de la cathédrale. Pour cela, il faut retirer 12 statues qui y sont juchées, 3 mètres de haut, tout en cuivre. Alors Rémi, vous avez suivi l'opération, vous êtes même monté en l'air ?
Oui, ici dans la rue du cloître Notre-Dame, on est retourné sur le sol. Les curieux s'agglutinent autour de la grue de près de 100 mètres qui décroche ses statues. Dominique, retraité, est venu spécialement pour le spectacle.
On voit la grue qui s'approche à un moment de la flèche et quelques instants après, elle tourne et puis on voit la statue qui descend tout doucement au bout de son câble jusqu'à l'atterrissage sur une plateforme routière.
8 ont déjà été déposés et en tout 16 doivent l'être d'ici ce soir. 12 apôtres et 4 évangélistes qui se trouvent sur la flèche recouverte de plomb au sommet de Notre-Dame. Sa restauration va coûter 6 millions d'euros et pour vous, on a pris le risque de visiter ce chantier avec son responsable Jean-Michel Guillemant, direction les échafaudages.
Il y a 2 ascenseurs, un premier qui nous fait accéder aux terrasses et ensuite un deuxième pour accéder à la flèche. On va monter à 50 mètres.
La flèche culmine à
97 mètres.
Et une fois au sommet, la vue est épatante sur Paris. Et Philippe Villeneuve, l'architecte en chef des monuments historiques, est tout sourire. En plus, le soleil est de la partie.
On extrait les statues de cet échafaudage pour pouvoir les transporter en atelier et les restaurer. Ce sont des anges de cuivre qui survolent la cathédrale, oui. C'est gracieux, c'est émouvant aussi, parce que c'est la première fois depuis que Viollet-le-Duc les a mis en place en 1861 qu'on les restaure.
Viollet-le-Duc, l'architecte qui avait installé ces statues au 19e siècle, s'était lui-même incarné en Saint Thomas. Et Saint Thomas devrait prendre son envol. D'ici quelques minutes, les statues de 3 mètres seront exposées pendant 3 ans, le temps du chantier à Notre-Dame, à partir du mois de septembre.
Merci Rémi Brancato pour ce récit. On entend même les cloches de Notre-Dame, c'est parfait. Un mot de musique pour finir. Ils sont originaires de la banlieue de Rennes. Succès fulgurant, le groupe de rap Columbine, ce soir au Zénith de Paris, après 2 Olympias complets. Les deux rappeurs influencés par Aurel San ou PNL, dont l'album cartonne lui aussi. Les deux rappeurs ressortent leur premier album, Adieu, au revoir. Déjà hissé parmi les meilleures ventes, Mathieu Culeron.
Adieu bientôt, j'ai plus de sessions gaming que de sessions studio.
Plus de 250 000 albums écoulés, 300 millions de streams, 2 disques de platine. En 4 ans d'existence, Columbine est devenu un phénomène pour la jeunesse de France. Le duo rennais qui surfe sur les chiffres en ressortant leur premier album Adieu au revoir, augmenté de 10 nouveaux titres la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça, c'est un peu comme un entre-deux, et puis ça reste aussi dans une continuité, en fait, ça permet aussi de clore Adieu bientôt. Ça reste dans le même esprit, mais avec des nouveaux sons, en fait, c'est comme un coup de neuf.
Tu vois, maintenant, c'est le nouveau cap, quoi, c'est tous les 6 mois, on va sortir un truc, ce sera les meilleurs sons que t'as fait durant les 6 derniers mois, quoi.
Columbine, qui après avoir fait 2 Olympias complets, joueront donc au Zénith de Paris, une pression qu'ils abordent avec sérénité.
Là, je pense qu'il faut qu'on y aille vraiment à la cool, comme on a fait, par exemple, à l'Olympia un peu avant, et ça va être une belle soirée. Il y aura sans doute une surprise, je vais pas en dire plus parce qu'on prépare une petite entrée sympathique, quoi.
La ferveur des fans de Columbine est telle que les nouveaux titres deviennent des hymnes de concert quasi instantanément.
Même les sons à peine sortis à la fin du morceau, ils connaissent le refrain, tu vois, ils l'intègrent tellement vite qu'au final, même les exclus, en une minute, on peut commencer à leur rentrer dans le crâne, donc c'est mortel.
Les Columbine omniprésents pour les festivals d'été cette année et en concert dès la semaine prochaine pour le Printemps de Bourges.
Non, c'est pas grave. C'est pas grave.
Et donc ce duo Columbine en concert ce soir au Zénith de Paris.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Et l'ingénieur météo de nos rêves, c'est Sébastien Léas.
De l'air frais et sec s'enfonce sur le nord du pays, c'est donc un après-midi ensoleillé qui vous attend, des côtes de la Manche aux Hauts-de-France et au Grand Est, jusqu'au Poitou, au Berry et à la Bourgogne. Plus au sud, ce sont les nuages qui dominent, les plages landaises, le Gard, l'ouest des Bouches-du-Rhône et entre la Franche-Comté, le Limousin et la Charente-Maritime, des éclaircies arrivent à se dessiner. En revanche, sur le reste de la moitié sud, il faut s'attendre à des averses. En montagne, la neige apparaît des 1400 à 1700 mètres d'altitude. Les averses sont surtout fréquentes en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et entre les Pyrénées, le Midi Toulousain et le Tarn. Des orages sont aussi à craindre sur le sud-est et plus localement en Midi-Pyrénées. En Corse, de la grêle est même possible cet après-midi. Le vent est aussi soutenu avec de plus fortes rafales pour la Tramontane et le Mistral. Un vent frais souffle également près de la Manche. Côté température cet après-midi, il fait 11 degrés au Havre, 13 degrés à Brest et Strasbourg, 15 degrés pour Paris, Besançon, Toulouse, Nice, Clermont-Ferrand, Grenoble ou encore Calvi, 17 degrés pour Bordeaux et Perpignan et 19 degrés à Marseille.